Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, merci d'être présents avec nous ce soir pour cette dernière conférence dont le thème est la GSC, l'assurance chômage du chef d'entreprise et du mandataire social. Donc, nous sommes quatre à cette tribune. Donc, Pascal Ravon, donc, qui travaille justement pour la GSC, donc l'association GSC que je vais vous présenter en suivant. Nous avons M. Gédéon à ma gauche et M. Eliezer à droite, qui sont des témoins, qui vous raconteront donc l'usage qu'ils ont fait de la GSC. Et moi-même, donc, je m'appelle Daniel Thébault, je suis le président de la GSC depuis maintenant 8 mois, et je suis bien sûr chef d'entreprise avant tout, et donc heureux aujourd'hui de vous présenter notre association. Donc, quelques chiffres clés pour commencer. C'est important toujours de brosser le tableau, parce que quand on parle d'assurance chômage, qu'on veut entreprendre, c'est pas forcément, on pense pas à ça au début, mais comme j'ai toujours, c'est un petit peu comme l'assurance voiture, elle est obligatoire, alors que l'assurance chômage chef d'entreprise n'est pas obligatoire, mais quand on la paye, on pense pas, heureusement d'ailleurs, tous les jours à avoir un accident. Donc c'est un petit peu la même idée pour notre GSC. Donc quand même quelques chiffres pour bien positionner le tableau. Donc les défaillances d'entreprise en 2012, on a un nombre stable de défaillances d'entreprise, mais qui reste toujours élevé, puisque c'est quasiment 60 000 procédures, donc 59 780 exactement, donc, qui ont été prononcées en 2012, pour 58 195 en 2011. Bien comprendre que sur ces procédures, donc, il y en a 41 305 qui sont des liquidations judiciaires directes, et 18 475 sont des procédures de redressement judiciaire. 92% des micro-entreprises sans salariés ou des TPE de moins de 10 salariés. Donc ça, c'est rien pour voir le ratio. Et pour les PME de plus de 50 salariés, 18% de défaillances en plus qu'en 2011. Donc le but de la présentation d'aujourd'hui, donc, c'est de prévoir, entreprendre et rebondir, donc, ce qui sont les axes de la GSC. Donc cette présentation va se faire, on va vous présenter d'abord, bien sûr, qu'est-ce que c'est que le régime GSC ? Quelle est la définition de la perte d'emploi pour un dirigeant d'entreprise ? Quels sont les dirigeants concernés, pour que vous compreniez bien donc, à qui ça s'adresse ? Quelles sont les conditions ensuite pour s'affilier à notre assurance ? Et enfin, les solutions proposées par la GSC dans le détail. Alors, qu'est-ce que le régime GSC ? Les dirigeants d'entreprise, de par le statut, ne sont pas couverts par Pôle emploi en cas de perte de leur emploi. Le régime GSC est élaboré par et pour les dirigeants, et il a déjà été créé par plus de 30 ans, il y a 33 ans exactement, par les organisations patronales, que sont le MEDEF, la CGPME, rejoint un peu plus tard par l'UPA, pour proposer une assurance chômage aux dirigeants d'entreprise. Et donc c'est toujours le cas aujourd'hui, cette association donc est gouvernée par ces trois instances patronales, le conseil d'administration est formé par ces trois instances, et donc j'en suis le président, je suis personnellement issu du MEDEF. C'est une association, mais bien entendu, nous sommes adossés à des assureurs, donc parce que nous faisons la promotion de ce régime d'assurance, et nous travaillons avec le groupe Groupama, GAN et un certain nombre d'assureurs et de courtiers, bien entendu, au niveau français. L'objectif du régime GSC est de protéger le dirigeant d'entreprise qui a perdu involontairement son emploi, bien entendu, en lui accordant un maintien de ressources et en l'aidant à rebondir vers un nouveau projet. Donc c'est un peu plus qu'une assurance chômage. Il a des indemnités journalières qui sont calculées sur un pourcentage de revenus perdus, qui sont versées et complétées par des services associés permettant d'accompagner l'entrepreneur vers une nouvelle vie professionnelle, donc la GSC Assistance Emploi, et des prestations visant à compenser le manque à gagner, donc la retraite par exemple, issue de sa période sans emploi. Donc c'est bien un contrat d'assurance spécifique pour les organisations, pour les adhérents, pardon, d'organisations patronales. La GSC assure la perte involontaire de l'activité professionnelle de l'entrepreneur ou du mandataire social dans les cas suivants. Donc pour l'entreprise, c'est le cas de la liquidation, la cession judiciaire, la fusion-absorption, la restructuration profonde, la dissolution ou la cession à l'amiable suite à des contraintes économiques et bien sûr le redressement judiciaire avec perte de mandat. Et pour le dirigeant, c'est la révocation, la non-reconduction du mandat social du dirigeant. Donc, quels sont les dirigeants concernés? Le dirigeant concerné, donc, sont le dirigeant mandataire social salarié. Donc, dans les sociétés anonymes, c'est bien sûr le PDG, le directeur général délégué, qu'il soit administrateur ou non, et le membre du directoire. Dans les SAS, c'est le président dirigeant désigné dans les statuts. Et dans les SARL, gérant minoritaire ou égalitaire. Pour le dirigeant non salarié, dans les SARL, c'est bien sûr le gérant majoritaire, gérant associé unique de URL, co-gérant, même non associé d'un collège de gérance majoritaire. Et enfin, dans les autres formes juridiques d'entreprise, sont les chefs d'entreprise en nom personnel, en EIRL, les artisans inscrits au seul répertoire des métiers, les commerçants, artisans-commerçants, dirigeants de SNC, de sociétés en commandite.
Alors, on pourrait aussi ajouter des cas particuliers de ceux qui ne sont pas dirigeants d'entreprise, mais par exemple le conjoint d'un gérant majoritaire, même avec un contrat de travail, peut être refusé par Pôle emploi, simplement parce que c'est le conjoint. Et le fait d'être licencié par son conjoint, il y a un soupçon de continuer à travailler chez soi, donc ça peut être une situation que Pôle emploi n'aime pas indemniser. Mais il suffit de les interroger à l'avance pour savoir quelle est leur position face au statut du contrat de travail avec les pouvoirs accordés dans ce contrat de travail. Et la réponse de Pôle emploi l'engage, si c'est une réponse positive, vous êtes rassuré sur la réalité du contrat de travail. Si c'est une réponse négative, Pôle emploi est prêt à vous rembourser 3 ans de cotisation. Donc c'est bon de faire la démarche. Il y a des formules adaptées à chaque forme juridique d'entreprise. Ça peut être également l'associé qui n'est pas le gérant ou qui n'est pas le président, mais qui est associé pour une grande part, cas extrême, l'associé majoritaire pourrait révoquer le gérant. Enfin, vous voyez, on peut arriver à des situations assez complexes. Et donc, Pôle emploi statue sur chaque cas particulier pour dire si réellement l'associé est accepté ou pas. On ne parle pas d'un associé lambda, hein, c'est l'associé qui a une fonction dans l'entreprise, hein, et qui est rémunéré pour cela. Là, vous pouvez aussi interroger Pôle emploi. Et GSC a vocation d'affilier tous ceux que Pôle emploi refuse.
Merci pour ces précisions. Enfin, donc, les conditions qui sont requises pour l'entreprise, c'est d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés, donc avoir un RCS, ou au répertoire des métiers. C'est adhérer à une organisation patronale membre de l'association GSC, donc je vous les ai cités tout à l'heure, MEDEF, CGPME ou UPA. Et donc, on vous précise que les créateurs et repreneurs d'une entreprise créée ou reprise depuis moins de 3 ans, qui souscrivent la formule créateur, que vous expliquera plus tard Pascal, sont dispensés de cette obligation. Et enfin, l'association GSC est là pour vous présenter les avantages d'appartenir à une organisation d'entrepreneurs et à vous aider à trouver celle qui vous convient le mieux. Et enfin, pour l'entreprise, bon, si elle adhère à la GSC, elle ne doit pas connaître de difficultés économiques, donc au moment où elle souscrit. Mais ça, je crois aussi que Pascal va développer quelques
secondes. Voilà, oui, c'est... On a vu tout à l'heure les différents cas d'acceptation, hein, les causes de chômage qui sont acceptées par le régime GSC. En fait, ce sont toutes les causes, ce n'est pas uniquement le dépôt de bilan, liquidation, redressement judiciaire. Et malheureusement, on voit toujours des revues de vulgarisation sur le sujet qui vous disent « oui, les régimes privés existent, mais ils sont trop chers, et puis ils n'interviennent qu'en cas de dépôt de bilan ». Alors ça, c'est archi faux, c'est révoltant même de simplifier les choses à ce point-là, parce que GSC, depuis 33 ans, accepte également les dissolutions anticipées décidées à l'amiable. Donc les associés décident d'arrêter l'activité parce que le chiffre d'affaires n'est pas aussi bon, peut-être parce qu'il y a eu la perte d'un client principal. Donc des situations qui font que les associés doivent réfléchir sur la continuation ou pas de l'activité et éventuellement procéder à une dissolution anticipée, nommer un liquidateur amiable. C'est beaucoup mieux que d'avoir sur le dos un liquidateur judiciaire. J'espère qu'il n'y en a jamais dans la salle de conférence. Et malheureusement, c'est enregistré. Bon, rewind, please. Donc, on peut être liquidateur amiable, prendre le temps de liquider les actifs de l'entreprise. Mais il y a une cause économique, il y a une contrainte économique derrière qui est peut-être appuyée par l'expert comptable ou par l'organisation patronale à laquelle appartenait l'entreprise. Et donc, GSC intervient. Il n'y a pas que le dépôt de bilan. On peut s'arrêter proprement en payant tous ses créanciers et ne pas être en cessation de paiement. Voilà, donc c'est très, très étendu. Et néanmoins, on peut aussi s'affilier, et c'est malheureusement le réflexe de beaucoup d'entrepreneurs, de réfléchir, qu'est-ce qui existe? Si je ferme mon entreprise, je n'ai pas le droit à Pôle emploi, c'est certain, mais alors est-ce qu'il y a quelque chose? Et c'est là où ils réagissent souvent trop tard en voulant s'affilier, et on peut le faire à n'importe quel moment d'ailleurs, de l'existence de l'entreprise, mais à condition que la situation économique soit saine. Et si vous avez eu des pertes comptables importantes, ne vous privez pas de demander l'affiliation, mais surtout joignez les derniers comptes annuels. C'est un comité de décision chez l'assureur qui va examiner la situation bilancielle de l'entreprise et décider si oui ou non l'entreprise est affiliable. Si à leurs yeux elle n'est pas affiliable, et, bon, en absence d'éléments nouveaux, de toute manière, le dossier peut être examiné au terme de l'exercice en cours et donc réexaminer la recevabilité de l'affiliation. Voilà, mais ne vous en privez pas, c'est mieux de tenter d'être affilié que de penser qu'on ne peut pas l'être du tout. Voilà, mais non. C'est...
Enfin, ne faites pas de fausses déclarations.
Oui.
Puisque c'est déclaratif et on a statué, donc il y a 3 mois, il y a une commission paritaire qui examine les dossiers. 3 cas où les chefs d'entreprise avaient donc fait des fausses déclarations et bien entendu, ils n'ont pas touché la GSC. Donc c'est dommage, voilà, donc c'était juste une mise en garde qui est normale, bien entendu.
Voilà, donc si vous avez le moindre doute sur les comptes de l'exercice écoulé, envoyez les comptes annuels. Après, l'assureur statue une fois pour toutes, hein, et même si après l'exercice en cours fait un plongeon dans le négatif, la situation aura été acceptée et on ne reviendra pas sur l'acceptation au moment de l'affiliation. Voilà, donc c'est une très grande information. Parce que tout le reste, tous les autres cas de perte d'emploi involontaire, quand il n'y a pas de fausse déclaration au départ, sont indemnisables. Voilà, c'est un régime qui est extrêmement ouvert, il n'y a pas de mauvaise surprise. Le contrat n'est pas très bavard sur les cas d'intervention. Ce n'est pas exhaustif. Mais dès qu'il s'agit d'une perte involontaire, justifiée par une contrainte économique ou par une pression des associés majoritaires, et quelquefois, même si ce n'est pas une révocation, ça peut être présenté sous forme de démission dans le milieu quand vous êtes mandataire social et que vous ne possédez pas l'entreprise. Ça peut se terminer par une démission. Mais derrière, il y a une contrainte de démissionner. Donc ce sera examiné favorablement. Voilà, donc c'est presque tout est pris en charge. Et on peut dire même, parce qu'on a 3-4 concurrents en France qui n'ont pas été créés par les instances patronales, qui sont des contrats d'assurance purs et durs, par exemple, qui ne prennent pas la révocation d'un gérant qui aurait 15% des parts de l'entreprise. Ils sont limités à 10%. Or, la révocation, elle existe bel et bien pour tous les dirigeants qui sont dans une situation juridique, comme un président de société anonyme. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs, parce que tout le monde préfère la SAS. Mais toujours est-il que le président de société anonyme, il est révocable par le conseil d'administration, même s'il a, je vais exagérer, 90% des parts de l'entreprise. Il est révocable en conseil d'administration. Et en plus, il est révocable ad notum. Ça veut dire sans motif. En latin, c'est un signe de la tête. Vous voyez la porte du fond, là. On veut changer de dirigeant. Donc, comme ça, il n'y a pas de dommages et intérêts pour vexation, puisque c'était prévu dans le contrat de mandat de pouvoir être révoqué sans motif. GSC est le seul organisme en France. Donc, c'est pour vous montrer que les assureurs, sous l'impulsion des instances patronales, jouent le jeu d'accepter tout ce qui est une décision fondée juridiquement. Et c'est le cas pour la révocation ad nutum d'un PDG. Qu'on retrouve également souvent, lisez attentivement, si vous avez créé une SAS, on retrouve aussi cette clause bien souvent, hein, révocation sans motif, ça revient au même, ad nutum sans motif, puisque les statuts d'une SAS, c'est du sur-mesure. Donc c'est bien de les relire un peu. Voilà. Mais donc il n'y a pas de mauvaise surprise avec le contrat GSC, si tout a bien été déclaré au démarrage de l'affiliation.
Ouais, et si je puis me permettre, donc il n'y a pas qu'en cas de défaillance d'entreprise, hein, c'est ce que vous venez de dire. En cas de fusion ou acquisition de votre entreprise, les repreneurs peuvent dire, ben voilà, je ne garde pas le dirigeant. Et à ce moment-là, s'il avait souscrit une assurance GSC, même si l'entreprise en va très très bien, le dirigeant, donc qui est remercié par le repreneur, peut toucher la GSC. Hein, donc ça, c'est important à dire aussi. C'est pas qu'en cas de défaillance d'entreprise.
Voilà. On a 50% des cas d'intervention, enfin c'est peut-être entre 48 et 50, qui sont des révocations ou des démissions contraintes, donc qui n'ont pas de lien avec les difficultés économiques de l'entreprise, qui peut ne pas en avoir du tout d'ailleurs. Parce que les chefs d'entreprise ou les mandataires sociaux qui sont révocables, on pourrait dire sur un siège éjectable, hein, parce qu'il n'y a rien ne doit s'opposer à la révocabilité, eh bien sont très sensibles d'accepter un mandat social s'il n'y avait pas derrière une couverture d'assurance chômage du dirigeant. Et donc là, il y a toute l'importance de ce régime qui couvre toutes les situations. Alors on se croit quelquefois très protégé. C'est une anecdote, je vais dire amusante, peut-être pas sur le moment pour celui qui l'a vécu, mais c'est un cas réel d'un gérant majoritaire qui avait pris toutes les assurances de prévoyance auprès de son agent général. Et puis l'agent général lui a proposé aussi GSC. Il a tout souscrit, hein, tout le package. Et en tant que gérant majoritaire, il était inamovible, hein, en quelque sorte. Il ne pouvait pas être révoqué. Néanmoins, quelques années après, son entreprise qu'il avait créée, hein, c'était son bébé, a fleuri, prenait donc de l'expansion. Le conseiller juridique a dit « ce serait quand même plus sérieux de transformer votre société en société anonyme, parce que SARL, bon, ça fait un peu petite entreprise de famille ». Et donc il a eu cette occasion, il a tout à fait accepté, il est devenu de gérant majoritaire, il est devenu PDG, actionnaire majoritaire. Mais il s'est fait mettre à la porte par le conseil d'administration, deux conseils plus loin. En fait, c'était une magouille entre le conseiller juridique et son fils, qui était directeur général, qui voulait une transmission un peu anticipée. Vous voyez, il faut réfléchir aussi à la transmission. Et en fait, il était loin de s'imaginer, et c'est vrai qu'on n'y pense pas, quand on est majoritaire, on remporte toujours les décisions en assemblée générale, mais pas en conseil d'administration. Quelle que soit la détention du capital social, vous n'avez qu'une voix en conseil d'administration. Alors il y avait le fils, il y avait la belle-fille, bien sûr, et puis alors, les choses ont été un peu anticipées. Mais il ne croyait pratiquement pas, lors de sa première visite à GSC, qu'on puisse intervenir pour une révocation de PDG actionnaire majoritaire. Et comme juridiquement ça passe... On l'a indemnisé pendant 2 ans. Il avait pris la garantie maximale. Voilà. Donc on se croit toujours à l'abri, mais c'est quelquefois très pernicieux, hein, les pressions d'ordre économique ou même familial pour récolter le poste de mandataire social. Là, c'est produit un peu d'une façon anticipée. Alors oui, comme notre président le soulignait tout à l'heure, Daniel Thébault, la création, GSC, là aussi, le régime qui peut vous assurer dès la création. On n'exige pas qu'il y ait 2 exercices comptables. L'assureur, on rappelle, c'est Groupama GAN, n'est pas frileux au point de dire « je veux voir si ça marche avant de les assurer ». Vous pouvez vous affilier dès l'immatriculation, soit au RCS, soit au répertoire des métiers. Et c'est très bien parce qu'il y a en plus un tarif très avantageux, parce qu'on sait que quand on est créateur ou repreneur, souvent on ne se rémunère pas, il n'y a pas de trésorerie, on est quelquefois aidé par Pôle emploi dans l'accompagnement, et donc ça remplace pour ne pas se charger l'entreprise, hein, par des rémunérations. Donc il n'y a pas un revenu de référence. Et l'offre GSC pour le créateur ou repreneur d'entreprise est tout à fait accessible. Alors, vous voyez ici sur cet écran qu'il y a 2 formules, un créateur-repreneur et puis l'offre normale qui est l'offre tout entrepreneur. Mais donc, le créateur va passer d'abord par l'offre créateur-repreneur, si son entreprise a moins de 3 ans et qu'il a soit aucune rémunération, aucun revenu, on va dire, de manière plus générale, ou bien un revenu assez faible, en tout cas inférieur à 18 516 euros, c'est la moitié d'un plafond annuel de la Sécurité sociale, donc inférieur à 18 516 euros. La cotisation établie forfaitairement par l'assureur est de 384 euros à l'année. On peut aussi payer mensuellement 37 euros. c'est très faible, très accessible. Et l'avantage, c'est qu'en fait, le but, c'est de payer le moins cher possible cette première année d'assurance. Et ça a été mis au point donc pour le créateur. Parce que la première année d'assurance, il n'y a pas de garantie. On paye, mais on n'a rien en retour. C'est-à-dire si l'entreprise déposait le bilan 8 mois après son affiliation, bon, c'est quand même rare quand on démarre, hein, il n'y a pas de garantie au cours des 12 premiers mois. Donc autant passer cette première année avec un coût extrêmement faible. Alors vous voyez qu'il y a aussi une indemnité qui est garantie, qui est un peu plus de 12 fois supérieure, mais c'est vraiment dans le cas... Le cas des désastreux, de celui qui va fermer la deuxième année alors qu'il ne s'est jamais dégagé de revenus. Donc là, vraiment, il y a eu un manque d'études de marché ou d'accompagnement. Enfin, c'est très rare, on le connaît très rarement. Ça veut dire que l'assurance n'a pas pu être actualisée. Il n'y a jamais eu de revenus perçus par le chef d'entreprise. Et donc, en fermant l'entreprise et en déclarant sa perte d'emploi, il va récupérer quand même 5 388 euros. Mais ce n'est absolument pas le but du jeu, effectivement. Le but, c'est d'actualiser la garantie dès qu'il y a un premier revenu déclaré à l'administration fiscale. Même s'il est très faible, hein, même s'il est inférieur au demi-plafond, admettons même qu'il soit de 10 000 euros à l'année, ce premier revenu déclaré à l'administration fiscale, quelquefois c'est un choix, parce qu'on se verse un revenu, puis il y a à côté aussi des dividendes, enfin bon, on trouve tout. 10 000 euros, ça permet d'avoir une indemnisation de 7 000 euros, 70%. C'est mieux que les 5 388. Et en tout cas, ça permet d'enclencher un système qui sera actualisé chaque année en fonction de la dernière déclaration de revenus. Et si ensuite, des 10 000 euros, vous passez à 30 000 euros, eh bien la garantie va tripler aussi. Bon, la cotisation aussi, hein, mais l'indemnisation va tripler sans qu'on mette un autre délai d'attente, même si l'augmentation de garantie est très importante. Donc il y a réellement... une actualisation régulière, hein, adaptée aux derniers revenus déclarés à l'administration fiscale. Donc les conditions d'affiliation, on les a, comme pour les autres affiliations normales, être inscrit au registre du commerce et des sociétés, ça veut dire que l'auto-entrepreneur n'est pas couvert, hein, tant qu'il est à l'état d'étude. Il faut réellement opter pour un statut déclaré au registre du commerce et des sociétés. C'est toujours une précision utile. Parce que l'auto-entrepreneuriat a aussi un certain succès. L'obligation d'appartenir à une organisation patronale est différée. Quand on est dans le régime créateur, il n'y a pas cette obligation qui alourdirait les charges, mais on peut déjà y réfléchir. Et certains le font volontiers, ne serait-ce que pour se mettre en connaître donc un réseau d'entrepreneurs de leur région. Alors, le régime tout entrepreneur, donc celui, le régime classique, qui vous permet d'être indemnisé pendant 12, 18 ou 24 mois, c'est au choix, vous voyez. C'est pas en fonction de l'âge. Pôle emploi, c'est 24 mois si vous avez moins de 50 ans et au moins 24 mois de cotisation. Et puis 36 mois pour les plus de 50 ans. Là, c'est au choix et c'est très bien parce qu'en fait, vous verrez, les cotisations sont finalement très faibles par rapport au régime obligatoire. Mais vous pouvez estimer que 18 mois de chômage indemnisé soit largement suffisant pour vous retourner, pour retrouver soit un emploi de dirigeant, soit recréer une entreprise ou racheter. Et effectivement, l'assureur, donc Groupama Gann, nous livre des statistiques qui montrent que c'est au bout de 14 mois environ, tout âge confondu, qu'un chef d'entreprise retrouve une activité ou recrée une entreprise. 14 mois. Donc ça veut dire, même en comptant ceux qui se font, parce qu'il y a eu des difficultés économiques, une sorte de pré-retraite entre 58 et 60, ou 60 et 62, enfin bon, ça varie. Mais enfin, on voit bien que c'est la décision de fermer l'entreprise a été bien calculée, les dates sont assez bien calculées. Donc même en intégrant ceux qui bénéficient des 24 mois, la moyenne est de 14 mois. Donc d'autres retrouvent plus rapidement qu'avant 14 mois. Et la garantie... pourrait se limiter à 12, voire 18 mois pour une garantie optimale. Et on le verra d'ailleurs, si vous recréez une entreprise, vous pouvez être aidé. Avec les mois qui n'ont pas été versés, vous pouvez utiliser ce delta pour un accompagnement ou une aide au démarrage. Donc c'est bien. La garantie optimale est en résumé celle de 18 mois d'indemnisation à hauteur de 70%. Je crois que les taux ne sont pas encore apparus, mais c'est 70% la meilleure formule. Il y a un délai de carence de 12 mois, je vous l'ai dit, où il y a pas de, les 12 premiers mois, on n'est pas couvert. Il faut passer ce délai de carence ou délai d'attente. Ensuite, il y a, alors c'est tout le jargon des assureurs, hein, il y a aussi une franchise. Quand on perd son emploi ou quand on ferme l'entreprise, donc il y a une franchise de 30 jours, les 30 premiers jours de chômage qui ne sont pas indemnisés. Donc si vous avez une garantie de 12 mois, ce sera du 2e au 13e mois que vous serez indemnisé. Néanmoins, cette franchise peut être supprimée si lors d'une procédure de redressement judiciaire qui se termine en liquidation, vous n'avez pas été payé les derniers mois. Donc on ne va pas ajouter une franchise supplémentaire. C'est dès le moment où vous perdez le mandat social et l'exercice du mandat social que vous serez indemnisé, donc dès le premier jour, sans ajouter encore une période sans revenu. Alors, les deux dernières lignes soulignent un cas particulier. Il y a de plus en plus de créateurs qui ont dépassé le 58e anniversaire. Il y a des conditions spécifiques pour pouvoir adhérer. Il faut que, ici, qu'il reste, la condition clé, c'est qu'il reste encore 20 trimestres à cotiser pour une retraite à taux plein. Parce que le chômage ne se cumule pas avec la retraite. Donc, il faut qu'il reste encore 20 trimestres, c'est-à-dire 5 ans à faire pour obtenir une retraite à taux plein. Donc, 20 trimestres. Autrement, on n'est plus affiliable au-delà du 58e anniversaire. Mais si on s'est affilié avant, on peut rester jusqu'à ce que l'on ait réuni les conditions à plus de 60 ans et le nombre de trimestres validés pour une retraite de base à taux plein. Et le délai d'attente passe de 12 mois à 18 mois quand on s'affilie au-delà du 58e anniversaire. C'est pour éviter le calcul de la pré-retraite, hein, en fait. C'est vrai que c'est un régime tellement large dans son intervention que certains pourraient souscrire cela pour se faire un capital ou faire une jonction, un système de pré-retraite, qui pourrait servir aussi pour les cas de révocation. Hein. Enfin, vous savez, certains se penchent finement sur les conditions générales et ce sont des cas acceptés du moment que les critères sont remplis. Mais donc l'assureur a durci les conditions d'entrée au-delà de 58 ans. Ici, vous avez donc les cotisations. C'est un grand sujet. On a vu que GSC couvrait à peu près tous les cas d'éviction de l'entreprise ou de fermeture ou de fusion-absorption. Alors on se dit, un régime qui couvre tout, ça doit être plus cher que Pôle emploi, fatalement, puisque en plus c'est un régime privé où il y a une adhésion volontaire. Il n'y a que ceux qui craignent de perdre leur emploi qui adhèrent à ce système. Et là, vous avez donc... pour la première année de cotisation, hormis le cas du créateur, hein, dont nous avons parlé tout à l'heure, avec une cotisation forfaitaire, ici vous avez les taux de cotisation qui s'appliquent très simplement sur chaque tranche du revenu déclaré à l'administration fiscale. Si vous avez un revenu de 40 000 euros imposable, la tranche A va jusqu'à 37 000, 32 je crois. Oui. Et donc le taux appliqué, c'est soit 3% sur la tranche A, ou 3,98 pour celui qui choisit la formule à 70%. D'accord. On reste là. Donc on rappelle, il y a le choix du niveau d'indemnisation. On peut se contenter de 55% de son revenu avec des taux de cotisation très faibles. Hein. 3%, c'est moins que la moitié d'une cotisation à Pôle emploi, qui est de 6,40 du revenu brut. Ou alors la formule 70%, où la première cotisation, premier taux de cotisation est de 3,98% sur la tranche A. Alors, si vous avez un revenu inférieur à 37 000 euros, c'est ce taux-là, 3,98, qui va s'appliquer. S'il est supérieur, c'est uniquement le chouïa qui va dépasser les 37 000 euros et qui se trouve en tranche B, qui va être avec une cotisation de 4,28 pour la formule à 70. Donc, c'est tout à fait... qu'on ne nous dise pas que ce genre de régime... coûte énormément, donc une tarification exorbitante. La tranche C, pour les bienheureux qui dépassent les 170 000 euros à l'année, est toujours garantie à 55%. Alors pourquoi n'est-il pas les 70%? C'est que dans la plupart des cas, les indemnités de chômage ne sont pas imposables. On verra tout à l'heure le côté de la fiscalité des cotisations et des indemnités. Ça surprend, mais les indemnités de chômage ne sont pas imposables. On ne l'a même pas voulu. Hein. C'est toujours une bonne surprise, mais on a subi la décision du ministère de l'Économie et des Finances au début des années 80, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Donc ensuite, après un an d'affiliation, on peut ne pas être satisfait de 12 mois de chômage indemnisé et dire je préfère 18 mois, et c'est effectivement la formule optimale, ou 24 mois. Et donc là, les taux de cotisation sont légèrement plus élevés. Vous voyez, alors je viens juste à la meilleure formule, qui est les 70% pendant 18 mois. Cotisation au tranchat, c'est 6%, donc toujours inférieur au régime obligatoire. Cotisation en tranche B, 6,53%. Alors on pourrait dire, tiens, là, ça dépasse le régime obligatoire, qui est de 6,40. Mais n'oubliez pas, c'est 6,53 qui est calculé sur un revenu net imposable. Donc après déduction des charges sociales. Alors que Pôle emploi prend 6,40 du revenu brut. Donc de toute manière, la cotisation est encore supérieure. Et en tenant compte du fait qu'un chef d'entreprise ne reste pas 24 mois au chômage, les taux de l'option 24 mois sont plutôt intentionnellement dissuasifs. Voilà. Mais ils sont libres d'accès. Faut être assureur pour comprendre. Quand vous changez d'option, quand vous réclamez donc de passer à 18 mois d'indemnisation au lieu de 12 ou à 24 mois, les deux options sont accessibles dès le premier anniversaire, il y a un délai d'attente de 12 mois sur les mois supplémentaires, les 6 ou les 12 mois supplémentaires. Donc en résumant, au bout d'un an d'affiliation, vous êtes indemnisable pendant 12 mois et si vous avez choisi l'option de durée supplémentaire, ce n'est qu'au bout de 2 ans d'affiliation que vous êtes indemnisable pendant 18 ou 24 mois selon votre choix. Sur tous les risques courus, hein, là aussi, c'est le seul organisme qui vous indemnisera 24 mois en cas de révocation, par exemple. Hein. Pour avoir étudié les quelques contrats concurrents qui nous ont bien copiés, mais qui sont restés frileux sur le cas de la révocation, je peux vous affirmer qu'on est vraiment les seuls à couvrir la révocation et même à ne pas avoir cette limitation dans le temps. Donc 24 mois ou 18 mois, ça marche aussi pour la révocation. Certains qui ont voulu comparer les contrats me comprendront. Mais on n'est pas là pour critiquer les clauses des concurrents. Le gérant majoritaire, l'artisan, le commerçant, enfin tous ceux qui sont travailleurs non salariés, TNS, ou en d'autres termes, heureux cotisants au RSI, ont le droit à un abattement ou une réduction, hein, c'est la période des soldes, enfin c'est toute l'année, là. La réduction est de 15% sur le tarif, parce qu'il n'y a pas de risque de révocation. Et hormis si vous changez de forme juridique, hein, comme le cas que j'ai expliqué tout à l'heure, de celui qui s'était transformé en société anonyme. Mais autrement, un gérant majoritaire n'est pas révocable. C'est clair et net. Hein. En 33 ans de fonctionnement, je n'ai jamais vu d'autres associés minoritaires saisir le tribunal de commerce pour demander la révocation d'un gérant majoritaire. Donc, et puis l'artisan ou le commerçant, il est seul maître à bord. Hein, donc 15% de réduction parce qu'il n'y a pas ce risque couvert qui est quand même un risque important de révocation pour les autres types de mandats. Alors juste une parenthèse quand même parce que et c'est intéressant les salons comme celui-ci parce qu'on rencontre beaucoup de créateurs qui choisissent des formules comme la SAS, Société par Action Simplifiée, unipersonnelle, plutôt que l'EURL. Alors certes, il y a beaucoup plus de charges, mais ils ne sont pas révocables, puisqu'ils sont le seul associé. Et secondo, ça permet de cotiser, de continuer à cotiser, comme la situation précédente, qui était souvent celle d'un cadre, cotisant à l'AGIR, qu'à l'ARCO, donc avec une bonne protection, aussi bien sur le plan maladie, invalidité, accident du travail, et une retraite qui continue à être versée, donc pour les points de retraite complémentaires, aux caisses cadres connues. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est quelquefois un renseignement qu'on a du mal à obtenir. Et beaucoup choisissent la SASU ou la SAS unipersonnelle pour rester dans le giron des assimilés salariés. Deuxième parenthèse que je referme. Voilà. Mais c'est ça la motivation. Une précision, gérant majoritaire, quelquefois on est co-gérant, enfin dans un collège de gérance majoritaire. Simplifions, s'il y a trois co-gérants qui ont chacun 33% des parts, tous les trois sont révocables. Hein. Ils ont beau être majoritaires, fiscalement, ils sont révocables, puisque les deux autres peuvent se lier ou se liguer contre le troisième. Ça fait un vote à 66% qui va passer pour révoquer le co-gérant qui ne plaît plus ou qui est en divergence sur la politique à mener. Donc là, il n'y a pas de réduction de 15% et le risque de révocation est bien couvert par GSC pour le co-gérant qui aurait 33% des parts. Et une situation encore beaucoup plus piégeuse, c'est d'être co-gérant sans aucune action. Vous cédez rien dans le capital de l'entreprise, mais vous êtes inclus dans un collège de gérance majoritaire parce que les deux autres co-gérants ou l'autre co-gérant détient plus de 50%. Vous voyez ? Donc vous êtes TNS tout en ne détenant aucune part sociale. Bien sûr, donc le risque révocation est couvert. Alors ici, c'est une saisie d'écran, en fait. Hein. Il aurait fallu être en Wi-Fi et connecté au site GSC, mais c'est pour vous pouvoir remarquer que vous pouvez accéder à cet écran qui est un calculateur, faire toutes les simulations possibles, en envisageant que votre revenu passe de 20 000 à 50 000, etc., pour voir ce que ça donnerait en cotisation GSC, si vous choisissez la formule 55, la formule 70, sur 12 mois ou sur 18 mois. Le 24 mois va vous assommer. Mais donc voilà. Ça permet de réfléchir lucidement au choix. Il n'y a pas de code à entrer. Hein, ce n'est pas comme pour certains sites où il faut un code pour recevoir ensuite toute une documentation et une foule de mails. Vous pouvez consulter ce site librement. D'ailleurs, voilà, vous avez l'intitulé du site, www.gsc.asso.fr. C'est la sixième rubrique, calculez vos cotisations, qui fonctionne très bien. Vous avez même aussi à pointer, si vous êtes gérant majoritaire, pour les moins 15%, vu l'absence du risque de révocation. Alors, il faut être majoritaire, non révocable et cotisant au RSI pour bénéficier des 15%. Je devance l'objection de l'associé unique de la SAS qui n'est pas révocable, mais n'étant pas TNS, ce n'est pas prévu de lui accorder ces 15% de réduction. Fiscalité des cotisations. Alors voilà, depuis le début, le régime GSC, les assureurs auraient vraiment souhaité, et les organisations patronales, souhaité que les cotisations à ce régime chômage soient déductibles du revenu imposable, comme le sont les cotisations à CEDIC, ou précisément Pôle emploi. Ça aurait été un argument extrêmement séduisant. Eh bien, pas du tout. Vous savez, le souci de l'administration fiscale, c'est d'encaisser le plus possible. Et donc, la réponse claire et nette en Assemblée nationale, c'était c'est un régime privé, les dirigeants qui veulent souscrire une protection privée, eh bien, ils doivent le payer de leur poche. Donc, ça n'est pas déductible de leur revenu imposable. C'est une utilisation personnelle de leur revenu, ce qui est encore plus clair pour le commerçant qui doit payer cette assurance sur ses fonds, même si c'est prélevé sur le compte de l'entreprise, il rembourse par un jeu d'écriture, mais c'est lui qui le paye. Et donc, ce n'est pas déductible du revenu imposable. Et quand vous avez une société avec un impôt sur la société, vous avez la possibilité de faire payer la cotisation par la société. C'est tout à fait légal, socialement, l'entreprise va payer une cotisation pour le manque d'assurance chômage de son dirigeant, et ça devient, c'est pas vous qui sortez la cotisation de votre revenu, mais c'est comme c'est pris en charge par l'entreprise, d'un côté c'est déductible du résultat fiscal de l'entreprise comme une charge de rémunération, mais d'un autre côté, elle le paye pour vous, donc ça devient un avantage en nature pour le revenu du dirigeant. Et il va payer des charges sociales qui ne sont pas toujours néfastes. Hein. Ça peut être aussi des cotisations pour la retraite complémentaire. Mais toujours est-il, donc il y a des charges sociales et l'impôt sur le revenu supplémentaire, puisque c'est un avantage en nature qui vient augmenter le revenu du dirigeant. Le revenu brut soumis à l'impôt. Alors, la réponse est désagréable, mais elle se termine d'une belle façon, puisque la réponse à l'Assemblée nationale, à Jacques Barrot d'ailleurs, c'était de continuer à préciser que, bien sûr, lorsque vous bénéficiez des indemnités de chômage par ces organismes privés, les indemnités de chômage ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Mais la raison première, c'est que c'est d'abord que c'est pas une capitalisation, hein, c'est un système qui est, doit être équilibré d'année en année entre ceux qui cotisent et ceux qui ont perdu leur emploi.
Depuis 80.
Et donc, si vous avez payé l'impôt déjà sur les cotisations, vous ne le payez pas une deuxième fois à la sortie. Théoriquement, en assurance, ce sont les mêmes sommes, hein, qui sont redistribuées à ceux qui ont perdu leur mandat. Voilà la logique respectée par, par l'administration fiscale. Donc, les 55% ou les 70% échappent à l'impôt sur le revenu, échappent même à la CSG. Mélangez pas, hein, parce que, au premier coup d'œil, GSC, on a tendance à... Le cerveau rétablit ça dans un autre ordre, c'est triste. On existait avant la CSG. Mais c'est curieux comment le cerveau arrive à lire les choses à la façon orientale, hein, de droite à gauche. Donc, ça n'est ni soumis à la CSG, ni à la CRDS, et à rien, voilà. Donc, c'est vraiment 70% de votre revenu net, ou 55%. Donc, c'est aussi peut-être un... Ça peut être un argument pour rester avec des cotisations de la formule 55, qui est vraiment extrêmement accessible. Notons au passage qu'il n'y a aucune ventilation qui est prévue. On préconisait, et les organisations patronales préconisaient à l'origine, de faire une répartition entreprise-dirigeant pour supporter la cotisation à la façon des ACELIC, 60-40. Et puis finalement, dans la quasi-totalité des affiliations que l'on reçoit, on constate que l'entreprise prend en charge 100% de la cotisation. Donc ça veut dire qu'elle se retrouve 100% en avantage en nature. Mais ça pourrait être du 60-40, du 50-50. Enfin, il n'y a pas de règle prédéfinie. Ben, fatalement, j'ai parlé des deux, hein, des prestations et des cotisations. Notez que depuis 1994, avec la loi Madelin, il y a la possibilité de déduire les cotisations de son revenu imposable pour tous ceux qui se lancent dans l'entreprise individuelle. La loi Madelin a été faite pour favoriser la création de l'entreprise individuelle. Et puis après, c'est venu se greffer la situation du gérant majoritaire, qui lui aussi est travailleur non salarié, et donc il ne peut pas avoir de protection par l'entreprise. Mais le premier souci, c'était quand même la prévoyance et la retraite. Mais Madelin avait néanmoins pensé à une part de cotisation déductible pour la perte d'emploi. Ça fait réfléchir, hein, parce que ça veut quand même dire depuis 1994, et avant également, mais même dans les dispositions officielles pour favoriser la création d'entreprise, dans les protections essentielles du chef d'entreprise, il y avait bien sûr les compléments maladie, les complémentaires retraites déductible du revenu imposable et l'assurance perte d'emploi déductible du revenu imposable. Alors, ça fait réfléchir et c'est une bonne chose de voir que c'est un souci qui existait déjà et qui ne prend que davantage de poids dans le contexte économique actuel. Même si c'est une démarche volontaire, il était prévu cette déductibilité grâce à la loi Madelin. Alors, c'est 1,875% du bénéfice imposable qui est déductible. Sauf pour les petits revenus, autrement, ça ne recouvre pas la totalité de la cotisation. Vous avez vu, le minimum, c'est 3% du revenu en cotisation GSC, et là, on peut déduire 1,875%. Donc, ce n'est pas la totalité. Madelin a pensé aussi à une répartition en disant, oui, mais il y a une partie supportée par l'entreprise, donc on ne va pas donner la totalité, on va se limiter à 1,875% du revenu. N'oubliez pas, donc... Quand vous déduisez une partie des cotisations avec la loi Madelin, vous les déduisez donc de votre revenu imposable, à la sortie, tout contrat Madelin d'ailleurs, hein, à la sortie, les prestations que vous touchez sont soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Et donc c'est un choix. Et là, on ne peut pas donner de directives particulières. Chacun a une sensibilité différente face à l'impôt ou peut-être face à la précarité de son entreprise. Pour dire, là, je préfère ne pas souscrire la perte d'emploi avec la loi Madelin. Je préfère payer l'impôt totalement sur les cotisations, qui, du reste, sont payées par l'entreprise la plupart du temps. Mais l'impôt, je le paie intégralement, sans profiter de la déductibilité fiscale prévue par Madelin. Et je sais comme ça qu'à la sortie, j'aurai des indemnités de chômage qui ne seront pas soumises à l'impôt. Ça peut être un raisonnement. Chacun, là, est libre de voir face à sa situation de contribuables. Moi, j'ai déjà tout dit. Hein. Je suis bavard, finalement. Alors voilà, ça c'est très important, parce qu'on se dit finalement, si je retrouve une activité, tout s'arrête, votre régime ne m'indemnise plus. Il y a une souplesse néanmoins, s'il y a reprise d'activité avec un revenu inférieur à la situation précédente de dirigeant d'entreprise, on peut avoir un complément. Peut-être le revenu est faible parce que c'est une reprise à temps partiel. Hein. Si vous retrouvez un job pour travailler 2 jours par semaine, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas le même revenu que la situation précédente. GSC complétera, versera la différence entre le nouveau revenu net imposable et les indemnités pleines qui étaient prévues. Pendant tout le nombre de mois auxquels vous aviez droit, donc si c'était 18 mois, ça ira jusqu'au 18 mois ou jusqu'aux 24 mois. Et puis, situation beaucoup plus fréquente, en cas de création ou de reprise d'une entreprise, vous avez le versement. Alors, vous avez le choix, en fait. Hein, il n'y a pas les trois qui se cumulent. C'est soit les 6 mensualités à partir du jour de l'immatriculation. C'est une aide au démarrage. Donc, s'il restait 6 mensualités, on verse 6 mois d'un coup comme aide au démarrage suite à la création ou à la reprise, reprise de société. Alors, s'il reste que 5 mois, on verse les 5 mois d'un coup. Voilà, on ne verse pas la moitié des droits restants, on verse 6 mois, c'est forfaitaire. Ou bien l'indemnité différentielle, si vous pouvez vous rémunérer faiblement, comme pour le cas précédent, une reprise d'activité salariée ou sous forme d'embauche. Ou le troisième cas, c'est l'accompagnement. Alors là, on a imité finalement les améliorations de Pôle emploi, parce qu'on ne veut quand même pas faire moins bien. Et donc, depuis 2005, il y a également un accompagnement qui va jusqu'à 9 mois, 100% pendant 6 mois et 3 mois à 75% dans la limite des droits. Alors, si vous restez 8 mois, vous aurez, voilà, ça se limitera à 8 mois. Mais en tout cas, il y a aussi cette possibilité, comme ça aussi un caractère alimentaire, de dire, voilà, je préfère plutôt que le capital continuer à percevoir des mensualités, puisque c'est dans la nature un revenu de remplacement. D'autres services ont été ajoutés, et c'est vrai que donc ce n'est pas simplement un régime d'indemnisation chômage. Et là, c'est purement et simplement une utilisation des bons résultats. Et c'est bien parce que c'est un régime patronal créé par les instances patronales pour leurs adhérents qui sont des chefs d'entreprise, que les fonds en excédent, en quelque sorte, plutôt que de rester dans les poches des co-assureurs, qui gère très bien le système, la preuve, c'est qu'il y a des excédents. Donc, c'est réutilisé en faveur des participants affiliés. Et donc, gratuitement, bien sûr, l'assureur paie la prestation d'avance pour l'assistance emploi. Ce n'est pas au sein de l'assureur, c'est toujours bon de rappeler ça. C'est un organisme extérieur qui est Mondial Assistance, hein, qui ne répartit pas que les véhicules en panne, mais également qui a un service d'assistance emploi et qui propose un accompagnement par un conseiller dédié. C'est toujours très apprécié. Donc, qui est disponible pour examiner votre situation, vous conseiller sur la formation d'un nouveau projet. Et cela pendant 12 mois pour les moins de 50 ans ou 18 mois pour les plus de 50 ans. Indépendamment d'ailleurs de la durée que vous avez choisie. Hein. Vous pouvez être indemnisé que 12 mois, mais bénéficier de cet accompagnement qui est gratuit pour vous pendant 18 mois si vous avez plus de 50 ans. C'est à dissocier. Et donc, c'est assez apprécié par les prestataires qui demandent. Alors, il faut, c'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas, il faut se décider au cours des 6 premiers mois d'indemnisation. Et finalement, autre service, c'est le manque à gagner pendant la période de chômage pour les cotisations de retraite. Hein, c'est un souci permanent, ça, de ne pas perdre en valeur sur les points acquis pour la liquidation de retraite. Il y a un accord entre GSC et l'AGIRC qui date de 1989. Et depuis 2003, compte tenu des bons résultats du régime, le coût de l'acquisition des points de retraite complémentaires AGIRC et ARCO, donc il y a tranche A, tranche B et C, éventuellement, donc ça va très haut, ça peut être une somme très élevée, hein, à peu près 20% du revenu brut d'activité, est intégralement financé, précisément remboursé intégralement par le régime GSC. Il suffit de présenter la facture dans les 6 mois. Mais enfin bon, une telle facture, généralement, on ne la garde pas 6 mois de côté. Et il faut la présenter à l'assureur qui remboursera. Ça fait partie de l'utilisation des bénéfices engrangés sur les exercices précédents. Et pour le TNS, dès la radiation du RSI, il y a la possibilité de souscrire une assurance vieillesse et également invalidité. qui est pris en charge, alors uniquement, comme pour le cas de l'Agirc-Arrco, pour la première année de chômage indemnisé par GSC qui suit la radiation du RSI. Donc voilà, ce sont des plus qui viennent s'ajouter pour vraiment retirer toute inquiétude et mieux rebondir et se relancer à corps perdu dans la création d'entreprises en ne redoutant pas ce statut de l'entrepreneuriat. Voilà, donc c'est un encouragement à examiner attentivement la documentation qu'on vous a remise. Et nous passons maintenant à des cas concrets, hein, beaucoup plus passionnants que ce que je vous dis.
Merci Pascal pour ton intervention donc très complète. Il y aura interrogation écrite pour quelques personnes à la sortie pour voir si vous avez bien assimilé la fiscalité des différents régimes. Non, le plus important, je crois, ça sera bien sûr les questions dans la salle, mais avant, on a deux témoignages. Et donc, on va commencer par vous, Monsieur Gédéon, donc, pour vous demander, en fait, pourquoi vous avez souscrit cette assurance GSC alors que votre fonction n'était pas du tout menacée, bien sûr, au départ.
Bon, je me présente, je suis Élie Gédéon. J'étais gérant majoritaire d'une société qui a eu une vie de 30 ans et 15 ans de cotisation chez la GSC. Pour vous dire un petit peu pourquoi ma décision a été prise de souscrire une assurance. Moi, je fais l'exportation de matériel téléphonique, de systèmes fixes. Il y a 15 ans de ça, quand je vendais du matériel, je m'imposais. C'est-à-dire, quand il y a un chiffrage, il n'y a pas de discussion. Je vends. Et la société marchait excellent. Et quand il y a eu une proposition, un vendeur qui est venu me dire, Monsieur Gédéon, écoutez, il y a une assurance, vous ne savez pas quand est-ce que vous arrêtez de travailler. Ça m'a pris 3 mois à réfléchir, ce qu'il dit la vérité. En plus, j'ai vu mon âge avec le temps, 15 ans, ça fait beaucoup. Alors j'ai calculé entre le temps, l'âge et ce qui va se passer dans la vie active du monde. Pourquoi avant je m'imposais dans le prix où je vendais, parce qu'il n'y avait pas de discussion. Le client, il n'avait pas le choix d'aller chercher. Et surtout quand je vends aussi en Indien, Afrique, Moyen-Orient, ce n'était pas facile à vendre un produit et aller voir où est la concurrence. Est-ce qu'il y a un prix moins cher et est-ce qu'il y a un prix plus cher? Non, c'était fixé, il y a une marque, il y a un service, on vendait. Et avec le temps, comme je suis ingénieur de télécom, on a commencé à parler avec le voix sur IP, c'est-à-dire tout ce qui est Internet sur IP. Alors, ça va se développer. J'ai commencé à réfléchir. Là, on marche petit à petit en Internet, mais d'ici 15 ans, on ne sait jamais comment ça va se passer. Et là, on est arrivé. Avec l'Internet, j'ai pensé que... quand on envoie un devis, le client, il va sur Internet, il fait le tour du monde, il va revenir vers moi et me dit, Monsieur Gédéon, écoutez, vous m'avez dit 5 euros, mais oui, mais moi, en Chine, j'ai trouvé 2 euros, en Afrique, j'ai trouvé 1 euro. Ça commence à se compliquer. Alors, j'ai dit, d'ici un an, on n'aura plus l'exclusivité d'imposer des prix. Là, je reviens à la GSC, le vendeur, il est venu me voir, je lui dis, d'accord. Faites-moi un devis, on a fait un devis, le revenu était excellent, la cotisation aussi. Le seul qui s'est imposé à ça, s'il dit non, c'est le comptable. Parce qu'il m'a dit, M. Julien, au lieu d'investir sur quelque chose que vous allez perdre à la fin, parce que la société, elle va bien, tout va bien, allez faire une assurance de vie. J'ai refusé, je reviens en calculant entre l'activité professionnelle et mon âge d'ici 10-15 ans. Bon, j'ai souscrit la GSC avec une explication qui était claire, saine, et avec des preuves qui ont été faites sur le papier. Et surtout, les interlocuteurs de GSC, que je remercie infiniment, c'est quelqu'un qui m'a suivi depuis le début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je ne fais rien. Quand j'ai dit je ne fais rien, c'est-à-dire que je suis sans activité parce que la société s'est arrêtée il y a 8 mois de ça, après 28 ans d'activité. Mais heureusement, aujourd'hui, je dis que j'ai l'assurance qui est là. Je suis depuis 8 mois avec un revenu fixe qui est payé par le GSC. Là, honnêtement, je suis très content parce que ce que j'ai décidé il y a 15 ans, ça tombe aujourd'hui. Alors, souscrire un contrat, c'est vrai que c'est, je dis cher, mais parce que la société, elle, si elle a les moyens de payer, et là, j'ai entendu une bonne nouvelle que je ne sais pas si M. Lopez il va me le dire là après, que tout ce qui est revenu n'est pas imposable. N'est-ce pas? Ben voilà, ça c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire tout ce qu'on a touché, on ne va pas le déclarer. Ça c'est une motivation, mais c'était une motivation franchement professionnelle. Alors ça c'est mon cas à moi, peut-être il y a d'autres cas, mais il faut voir un petit peu l'avenir, c'est qu'on ne sait jamais comment ça va se passer. Et chacun dans son métier, il peut voir exactement dans 10 ans qu'est-ce qu'il peut faire et comment ça peut avancer, comment ça peut se dégrader. Et voilà, moi, l'exemple. Aujourd'hui, je suis satisfait de ce contrat.
Bien, merci. Vous avez dit ce qu'on voulait vous... Non, je plaisante. Merci de dire que vous êtes satisfait du contrat. Et donc, si vous voulez, on va passer au deuxième témoignage, donc M. Eliezer. Donc, vous, ce n'est pas tout à fait le même cas.
Non,
donc,
pas du tout.
On va vous présenter aussi et discuter.
Donc, je m'appelle Jacques Eliezer. Donc, moi, mon contrat, tout simplement, était... Je travaille dans la reprise et le développement d'entreprises en difficulté. Donc, c'était suite à une reprise une reprise d'actifs à la barre du tribunal de commerce. Nous avions repris une belle société industrielle en France. Et au bout de 3 mois, le responsable RH, j'étais moi-même membre du directoire et actionnaire de la société, donc c'était une SA à directoire et conseil de surveillance, donc des organes un petit peu différents, mais les règles de fonctionnement étaient les mêmes. Et au bout de 3 mois, le responsable RH vient me voir et me dit « Monsieur Eliezer, les ACDIC vous refusent ». Je fais « Mais comment se fait-il? C'est pas normal ». Il m'a expliqué le pourquoi du comment à cause du mandat social, et tout simplement la motivation était de bénéficier de la même protection sociale que tous les salariés de l'ensemble de l'entreprise. Donc on a après tout simplement consulté sur le marché, on a fait notre recherche et l'offre GSC s'est imposée d'elle-même, tout simplement. Donc je confirme ce qui a été dit précédemment, que nous n'avions même pas un premier bilan. Donc dès la première année, suite à la création et à l'immatriculation de la société, mon contrat a été évidemment accepté et activé.
Et donc aujourd'hui, vous en êtes où aujourd'hui alors?
Eh ben, je suis le cas typique puisque j'ai immatriculé une autre société au mois de décembre dernier. Avec votre présentation, je viens d'apprendre qu'il y a encore des produits dans votre rayon qui m'intéressent. Donc on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je suis dans la fenêtre des 14 mois et j'ai immatriculé une société avec deux autres associés. Et on lance nos produits d'ici un mois.
Très bien. Et quel conseil donneriez-vous donc à tous les... entrepreneurs, futurs entrepreneurs présents dans la salle?
Mais pour moi, tout simplement, on dit souvent que diriger, c'est prévoir. Donc, je ne comprends même pas qu'un dirigeant d'entreprise puisse oublier ce point-là. Pour moi, c'est tout simplement une faute de ne pas penser à sa propre protection sociale. C'est lunaire. Je ne vois pas pourquoi, en tant que dirigeant d'entreprise, on est responsable de ses salariés. On dit souvent charité bien ordonnée commence par soi-même. Enfin, c'est évident qu'un dirigeant doit être protégé aussi bien que ses autres, que ses salariés. Sinon, comment voulez-vous vous lever le matin et aller donner le meilleur de vous-même pour votre entreprise?
Et vous, Monsieur Gédéon, est-ce que vous avez un message à faire passer?
Le message, je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a toujours des nouvelles de reprise d'activité. Ça fait réfléchir encore, pourquoi pas. Mais on ne sait jamais dans ce monde comment le risque peut arriver à n'importe qui, que ce soit humain, que ce soit actif, que ce soit professionnel. On ne sait jamais comment on peut y arriver à avoir un échec d'un jour à l'autre. Et c'est pour cela, c'est vrai, penser à avoir une assurance chômage, comme on dit à tout le monde, comme on est prévu comme gérant majoritaire, ça c'est bien.
Très bien, donc merci à nos deux témoins d'avoir témoigné, donc merci à vous deux. Je crois qu'il y a un micro dans la salle pour les questions, je ne sais pas où il est par contre ce micro. Qui demande de la parole pour poser une question? Alors monsieur, vous pouvez vous rapprocher parce que je ne vois pas le micro baladeur. Donc, vous parlez...
Oui.
vous dire que lors d'une un début d'indemnisation, reprise d'activité, alors les droits sont suspendus. S'il n'y a pas de complément d'indemnité différentielle sur le nouveau revenu, on va suspendre le versement pendant 6 mois. Et après, c'est une interruption définitive. Enfin, interruption définitive, si vous êtes dans le giron de Pôle emploi, vous acquérez d'autres droits. Si, en revanche, c'est un nouveau mandat social, il faut recotiser, soit dans la formule créateur ou la formule tout entrepreneur, pour repartir. Et il y a une carence, oui, de 12 mois sur la nouvelle affiliation. Voilà. Mais après, tous les cas peuvent être examinés si c'est vraiment... malencontreusement une autre révocation qui se produirait très peu de mois après, sans refaire une année d'accomplir le délai d'attente. Ça peut être proposé en commission paritaire. C'est dans l'extra-conventionnel, mais donc justement, comme on l'a évoqué, il y a une commission paritaire qui défend les cas particuliers.
Monsieur. Vous avez dit au début de la conférence qu'il y avait à peu près 58 000 entreprises qui ferment leurs portes par an. Sur un total de combien?
Alors ça, c'est difficile à savoir. La formule la plus courante, et les chiffres sont pas très récents, mais ça doit dater de 2006, je crois, les chiffres que j'ai en tête. Il y a plus +1 500 000 SARL, et après, en nombre à peu près équivalent, je pense que les SAS ont dépassé le nombre de sociétés anonymes. Mais il est intéressant, là, si vous revenez aux chiffres du départ, de constater que sur les 60 000 dépôts de bilan, de défaillance d'entreprise, il y a 92% qui sont des entrepreneurs qui, de TPE, ou qui n'ont pas de salariés. Donc ça veut dire que celui qui a créé son emploi, il est tout seul. Hein. Dans les médias, on n'entend parler que de ceux qui ferment et qui finalement laissent 50, 100, 1000 salariés comme ça sur le bord de la route. Mais 92% des défaillances d'entreprise, et on n'en parle jamais, ce sont des dirigeants qui avaient créé leur emploi, ils sont entrepreneurs individuels et ils se retrouvent sur la paille s'il n'y a pas eu la réflexion de souscrire une assurance chômage. Et ça n'a aucun impact sur des salariés, ils n'en avaient pas. Vous voyez un peu concrètement ce que ça veut dire, hein, les chiffres. Alors c'est sûr qu'on ne pense pas tout de suite à l'assurance chômage dès que c'est facultatif, mais imaginez un peu que... on a évoqué aussi la comparaison avec l'assurance auto, hein, qui est obligatoire. Mais même dans le véhicule, il devient obligatoire d'avoir des airbags. Heureusement que ça ne fait pas partie des options. Hein. Les airbags, l'ABS et compagnie. Bon, c'est prévu d'office maintenant, même le modèle de base. Voilà. Bon, GSC n'est pas obligatoire. Donc c'est pour cela que nous faisons de telles conférences. Mais tant qu'on n'a pas d'accident, on ne pense pas que les airbags sont là.
Oui, madame.
Sachant que la révocation n'est pas toujours un accident. Non, mais c'est ça que
je madame.
Sur l'augmentation générée par le changement de formule, il y a un délai d'attente d'un an. Oui. Depuis 2 ans ? D'accord. Non, c'est pas proposé systématiquement. Mais vous pouvez le demander. La bascule, parce qu'en fait, on ne l'a pas du tout évoqué, depuis 2009, il y a une nouvelle offre qui est beaucoup plus simple à comprendre avec les taux de cotisation. Donc là, c'est vraiment linéaire. On a 70% du revenu à l'euro près, alors que vous étiez affilié dans une formule avec des classes du régime de base, il y avait un régime complémentaire, etc. Qui faisait quelquefois des distorsions dans le montant des cotisations. Et les 15%, c'est aussi une utilisation des bénéfices qui a été adoptée, les moins 15%, hein, en 2009, dans la nouvelle offre. Mais vous pouvez demander à passer dans la nouvelle formule et vous aurez des cotisations plus faibles, effectivement.
Qui demande la parole ? Monsieur ? Oui ? Donc là, je ne vais pas faire un cours de. Donc il y a trois organisations patronales donc, qui ont lancé la GSC. Donc en gros, le MEDEF, donc c'est. J'espère que vous connaissez le MEDEF. Donc la CGPME, donc comme le nom l'indique, c'est pour les PME, mais en fait, c'est vraiment un syndicat similaire au MEDEF. On a la même clientèle, on va dire ça comme ça. Et l'UPA, c'est pour les artisans. D'accord. Donc c'est ces trois organisations patronales donc qui ont créé la. Enfin non, c'est le MEDEF et la CGPME qui ont créé le régime GSC donc il y a 33 ans et l'UPA nous a rejoint il y a donc une vingtaine d'années, c'est ça, Pascal ? 1992. Et voilà. Donc la différence après. Bon moi je suis MEDEF donc je vais pas ici. Vous donner les arguments, mais bon, voilà. Donc, si vous voulez, après, en tant que chef d'entreprise, il faut adhérer à un syndicat professionnel si, pour bénéficier de l'assurance GSC, un de ces trois. Ou à des branches, hein, si vous êtes aussi, je ne sais pas moi, si vous êtes du bâtiment, de la métallurgie, qui eux-mêmes adhèrent au MEDEF ou à la CGPME ou à l'UPA.
Oui, quelquefois, il y a le réflexe de dire, mais je ne veux pas adhérer au MEDEF ou à la CGPME. Puis, en fin de compte, le chef d'entreprise se rend compte qu'il cotise au CNPA pour les professions automobiles ou à la CAPEB ou à la FFB, ça c'est le bâtiment, il ne se rend pas compte que toutes ces organisations professionnelles appartiennent aux structures patronales. Hein.
Voilà, là, c'est... Nous sommes des structures interprofessionnelles, comme on dit. Hein, donc, voilà, et nous sommes donc des syndicats patronaux, puisque, comme vous le savez, quand il y a des accords nationaux, donc, nous sommes les signataires hein, de ces accords en face des cinq syndicats de salariés. Donc après, on parle de paritarisme, mais la GSC n'est pas un organe paritaire puisqu'on n'a pas les salariés bien sûr avec nous, puisque ça n'intéresse que les chefs d'entreprise. Voilà. Mais donc la gouvernance est entre nos trois organisations. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
On peut aussi remarquer que ces trois organisations sont aussi à l'origine de l'UNEDIC. C'est le régime obligatoire pour les salariés. Et c'est les trois mêmes instances patronales qui ont décidé 20 ans après l'UNEDIC, en 1979, de créer un régime, mais qui est resté toujours facultatif. Hein. Il n'y a aucun caractère obligatoire.
Oui, madame.
Oui, brièvement. Mais il faut être immatriculé soit au répertoire des métiers, alors ça peut être le cas de l'auto-entrepreneur. Donc ça marche.
Oui, bien sûr.
Pas dans la phase de création, mais en tout cas, au-delà de 3 ans, c'est sûr, il faut choisir une adhésion. Oui, c'est mieux avec un micro. Hein.
Voilà, le micro arrive.
Nous, on parle doucement, mais certains...
Qui c'est qui a demandé la parole? Je ne vois pas. Non, mais il y a une demoiselle qui arrive. Ah, voilà.
Il faut se lever pour poser des questions.
Non, monsieur, attendez le micro, puisqu'on en a un, voilà. S'il vous plaît.
Si on se rémunère partiellement comme salarié et partiellement via les dividendes, est-ce qu'on peut cotiser sur la base du revenu total et être couvert sur la base du revenu total ?
Donc dans la même entreprise, là. Dividendes
oui,
et salaire.
En tant qu'actionnaire dirigeant, si on se auto-rétribue à moitié en tant que revenu, donc salarié, et à moitié sur les dividendes, est-ce que je peux cotiser sur la base de mon revenu total ? Mais être aussi, bien entendu, couvert sur la base de revenus.
Non, la réponse jusqu'à présent, c'est non. Parce que les dividendes ne sont pas un revenu professionnel, ce sont des capitaux mobiliers. Et je vais vous citer un cas que GSC accepte fréquemment. Un gérant associé minoritaire, mais même avec 30-40% des parts, peut être évoqué. Il sera indemnisé pour sa perte de fonction. Mais il peut rester associé. Hein. On n'exige pas qu'il vende ses actions. Et donc, il continuera à percevoir ses dividendes.
Donc, il faut être vigilant à bien jongler l'équilibre entre dividendes et salaires.
Oui, tout à fait. Ah non, c'est du moment qu'il n'est pas bénévole au niveau salaire. parce que c'est une indemnisation de perte.
Non, mais c'est le salaire.
Oui, alors je ne suis plus là. Il n'y a pas de répartition acceptée ou refusée.
C'est calculé que sur le salaire.
Le monsieur explique le cas de figure où la moitié en fait vient des revenus, vient d'un salaire, et l'autre moitié vient des dividendes. Et vous dites là, il n'y a pas de couverture par la GSC. D'accord. Compris.
Que sur la partie salaire.
Oui, c'est ça. C'est logique.
Donc c'est pour ça qu'après on dit, bon ben c'est à chaque entrepreneur de faire sa propre répartition, quel qu'est son propre risque par rapport à ça.
Sachant que tout le reste suit, hein, c'est la même politique. Si vous voulez cotiser pour la retraite, c'est jamais sur les dividendes. Les prestations maladie ou invalidité, ça ne sera jamais non plus calculé sur les dividendes. Donc c'est sûr que c'est une façon de payer moins d'impôts, mais il vaut mieux trouver son équilibre. Voilà. Mais si vous êtes révocable, GSC va intervenir, tout en ne s'opposant pas au fait de rester associé ou actionnaire dans l'entreprise.
Qui demande la parole ?
Une autre situation qui n'a pas du tout été évoquée, c'est on peut être salarié dans une société, enfin je veux dire être cadre salarié couvert par Pôle emploi, et puis avoir une autre activité de chef d'entreprise et couvrir celle-ci par GSC. Si on perd cette activité et que l'on conserve l'autre contrat de travail couvert par Pôle emploi, on sera indemnisable du moment qu'il n'y a pas un report du temps disponible sur les activités restantes. Il faut être demandeur d'emploi et jouer le jeu de la recherche ou des efforts pour recréer une entreprise. Dans la définition du demandeur d'emploi, on ne peut pas répliquer « je ne cherche rien, je n'ai à justifier de rien parce que j'ai un autre contrat de travail » ou un autre mandat social d'ailleurs qui n'est pas affilié à GSC mais dans lequel maintenant je vais me consacrer à 120% de mon temps. Mais dans la philosophie, faut être en recherche d'emploi. Donc si les choses restent égales par ailleurs, on indemnisera la perte d'un emploi et d'une perte partielle de revenus. Ça existe aussi, hein, Pôle emploi, dans les catégories, celui qui recherche une activité à temps partiel. Et si dans la même entreprise, vous avez le bonheur d'être couvert par Pôle emploi pour un contrat de travail et être rémunéré ou avoir un revenu pour le mandat social et que vous perdiez tout dans un dépôt de bilan ou révocation plus licenciement ou rupture conventionnelle éventuellement, bien tout cela, chaque organisme va intervenir pour sa part. Pôle emploi sur la rémunération du contrat de travail et GSC sur le revenu qui était attribué au mandat social. Là, il y a un cumul des deux organismes. Mais si Pôle emploi refusait la partie contrat de travail, justement parce que vous aviez accepté un mandat social, GSC calculera sa garantie sur la totalité du revenu, puisque Pôle emploi ne veut pas couvrir la rémunération du contrat de travail, hein, s'il considère qu'il n'y a plus de lien de subordination. Et lorsqu'il y a révocation, pour parler simplement révocation du mandat plus licenciement sur le contrat de travail, GSC indemnisera à 55 ou à 70% de l'ensemble des ressources qui avaient été déclarées. Ouais.
Y a-t-il une dernière question ? Donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc d'abord merci à vous toutes et vous tous d'être venus assister à notre présentation. Surtout, comme on est au sein des entrepreneurs, entreprenez et prenez l'assurance GSC justement pour vous libérer l'esprit du reste. Donc bonne journée à vous toutes et à vous tous. Merci.
Merci bien.